Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, Le Monde aujourd'hui. Bienvenue dans cette édition du jeudi 28 juillet 2022. Avec vous, Eric Manelakiza. Voici d'abord le sommaire. En RDC, des tirs entendus dans une base de l'ONU à Beni, des manifestants contre la présence onusienne tentaient de s'en approcher. Dernière étape de la tournée africaine du président Macron, en visite en Guinée-Bissau, il indique vouloir coopérer avec la CEDEAO dans la lutte contre le terrorisme. Les Sénégalais votent aux législatives dimanche, scrutin test à 19 mois de la présidentielle. Entretien téléphonique de plus de 2 heures entre le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping sous le signe de tensions sur Taïwan et le commerce. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Dans l'est de la RDC, des coups de feu ont été entendus aujourd'hui dans une base de la mission des Nations Unies à Beni, alors que des manifestants anti-casquets bleus tentaient de s'en approcher. Plus de détails avec Claire Moingibourg.
Ces tirs provenaient apparemment de l'intérieur de la base de Madiba, dans le nord de Beni. Après les coups de feu, les manifestants se sont rapidement dispersés et 2 jeeps de l'armée sont arrivés. Des policiers militaires congolais se sont déployés en nombre devant cette installation et un char de la mission onusienne a été positionné à l'entrée. Les manifestations meurtrières qui ont visé le personnel et les installations de l'ONU depuis lundi ont gagné plusieurs villes. Goma, Beni, Butembo, Nyamilima, Sake dans la province du Nord Kivu et Uvira dans le Sud Kivu. 15 personnes ont été tuées dans le Nord Kivu, dont 3 casques bleus. 4 manifestants ont été tués par électrocution lors de la dispersion d'une de ces manifestations à Uvira. Les manifestants accusent les casques bleus d'être inefficaces dans la lutte contre les nombreux groupes armés et appellent au départ de la mission onusienne.
Toujours en RDC, des dizaines de ces miliciens ont quitté jeudi un camp de cantonnement situé à une 20aine de kilomètres de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Ils dénoncent l'absence de leur prise en charge par les autorités, indique un responsable local. Le centre de regroupement des ex-miliciens de Mutambiro abritait jusqu'à jeudi 1700 rendus. Et 370 femmes et enfants, certains viennent de quitter les lieux ce matin pour entrer dans la brousse et cela représente un danger, a déclaré le commandant de ce centre. Pour la dernière étape de sa tournée africaine, Emmanuel Macron, président de la France, est en Guinée-Bissau où il a discuté avec son homologue Oumaro Sissoko Embalo, président en exercice de la CEDEAO, pour discuter de lutte contre le terrorisme au service d'États légitimes. Le point avec Nani Tetalani.
La France va continuer de bâtir son action dans la région au service d'États souverains légitimes et de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, car nous considérons que notre rôle est d'aider la région à réussir cette bataille contre le terrorisme, a déclaré le président français lors d'un point de presse avec son homologue bissau-guinéen, Oumaro Sissoko Embalo, qui vient de prendre la présidence de la CEDEAO. Le chef de l'Élysée termine sa tournée africaine qu'il a d'abord conduit au Cameroun et au Bénin, où il a dénoncé l'hypocrisie de l'Afrique, consistant à ne pas reconnaître clairement que la Russie mène une agression unilatérale en Ukraine. Plusieurs dirigeants africains n'ont pas condamné l'intervention russe. Monsieur Macron a mis en garde l'Afrique contre le nouveau type de guerre hybride que mène Moscou, utilisant l'information, l'énergie et l'alimentation comme des armes de guerre. D'ailleurs, Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, a terminé dans le même temps sa tournée africaine à Addis Abeba en Éthiopie, siège de l'Union africaine.
Des délégations du Mali et de la Côte d'Ivoire ont été reçues jeudi matin à Lomé par la présidence togolaise afin de trouver une solution rapide à la détention de 49 militaires ivoiriens au Mali. Le président Faure Gnassingbé, qui assure la médiation entre Abidjan et Bamako, a reçu séparément les 2 délégations à Lomé. Aucun communiqué officiel n'a été publié par la présidence togolaise sur cette rencontre. dans le nord du Burkina Faso. 6 soldats et 3 supplétifs ont été tués dans 2 explosions d'engins artisanaux. Une autre source sécuritaire précise que le véhicule des soldats en mission de reconnaissance sur l'axe Seba-Deri a sauté sur une mine. Ces dernières semaines, des groupes djihadistes ont entrepris de dynamiter plusieurs ponts sur les grands axes menant vers les villes du nord du pays comme Deri et Djibo. Les populations des zones frontalières de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso vont bénéficier d'un projet de 3,6 millions d'euros financé par l'ONU afin de renforcer la gouvernance dans ces régions menacées par les djihadistes et y réduire la vulnérabilité des habitants. En janvier, le gouvernement ivoirien avait annoncé un grand plan d'aide sociale pour le nord du pays à destination des jeunes, cible privilégiée du recrutement des groupes djihadistes. Les Sénégalais élisent ce dimanche leurs députés lors de législatives qui se présentent comme un test avant la présidentielle de février 2024. L'opposition veut mettre ces élections à profit pour imposer une cohabitation au président Macky Sall. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
7 millions d'électeurs sont concernés par ce scrutin législatif à un seul tour. Il vise à renouveler pour 5 ans les 165 sièges du Parlement contrôlés par le camp présidentiel. La diaspora dispose de 15 députés. 8 coalitions sont en lice, dont celle de la majorité et Yewi Askanui, qui signifie « libérer le peuple » en langue wolof. C'est la principale coalition de l'opposition réunie autour d'Ousmane Sonko, qui ne peut pas se présenter. Elle s'est alliée à la coalition Wallou-Sénégal « Sauver le Sénégal » dirigée par l'ancien président Abdoulaye Wade. Le moins bien placé dans un département s'engage à soutenir l'autre avec pour objectif d'obtenir une majorité parlementaire et d'imposer une cohabitation. Le président Macky Sall a promis de nommer un premier ministre au sein de la formation victorieuse. La campagne électorale de 21 jours se termine demain vendredi.
Des manifestations sporadiques contre la junte au pouvoir en Guinée se sont déroulées jeudi à Conakry, paralysant la capitale malgré l'interdiction des autorités et un fort dispositif policier. Cette manifestation à l'initiative du Front National pour la Défense de la Constitution, une coalition de partis, syndicats et organisations de la société civile, visait à dénoncer la gestion unilatérale de la transition par la junte. 3 policiers et un milicien ont été tués hier dans une embuscade dans le nord-est du Nigeria. Des combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, ont tiré une grenade sur le convoi d'un administrateur local qui revenait de Mangouno, une ville garnison de l'État du Borno. La Cour pénale internationale a annoncé jeudi avoir émis un mandat d'arrêt contre un ex-chef de la SELECA et actuel leader d'un groupe armé en Centrafrique, Noureddine Adam, ancien ministre de la Défense de Michel Djotodia, est suspecté des crimes d'emprisonnement, torture, persécution, disparition forcée, de crimes de torture et traitement cruel dans des centres de détention lors de troubles en 2013, ont précisé les procureurs de la CPI.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping ont discuté ce jeudi par téléphone pendant plus de 2 heures des tensions entre leurs 2 pays au sujet de Taïwan et de leurs différends commerciaux. Mohamedou Oumfa nous donne les détails.
Selon la Maison-Blanche, le principal objectif de M. Biden est d'établir des garde-fous pour les 2 superpuissances afin d'éviter un conflit ouvert en dépit de leurs différends et de leurs rivalités géopolitiques. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, a déclaré avant l'appel que les tensions autour du comportement agressif de la Chine dans l'Indo-Pacifique seront à l'ordre du jour. Pékin et Washington sont en conflit au sujet de Taïwan, que la Chine considère comme l'une de ses provinces. Dernier motif de friction, un possible voyage de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, à Taïwan. Washington devra assumer toutes les conséquences de cette visite potentielle, a averti Pékin mercredi. Opposé à toute initiative qui donnerait aux autorités taïwanaises une légitimité, la Chine est vent debout contre tout contact officiel entre Taïwan et d'autres États. En mai, Joe Biden avait dit que les États-Unis défendraient l'île si elle était attaquée avant que la Maison-Blanche n'insiste sur le fait que la politique d'ambiguïté stratégique n'avait pas changé.
La diplomatie russe a confirmé jeudi la tenue de pourparlers en vue d'un échange russo-américain de prisonniers, mais assuré qu'il n'y avait pas encore d'accord, alors que Washington a indiqué la veille avoir fait une offre conséquente à Moscou. La visite jeudi à l'Élysée du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, la première en Europe depuis l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, ne revient pas à remettre en cause notre engagement en faveur des droits de l'homme. Je cite la première ministre française. Le président Emmanuel Macron reçoit ce soir MBS à dîner, une visite qui suscite l'ire des défenseurs des droits de l'homme. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Nanit Sylvani Talani.
La Côte d'Ivoire annonce une nouvelle découverte de pétrole et de gaz naturel par Eni au large de la côte Est et qui augmente de 25% les réserves ivoiriennes. Elle passe à 2,5 milliards de barils de pétrole brut et 3 300 milliards de pieds cubes de gaz naturel. La mise en production doit débuter au premier semestre 2023. La Haute Autorité congolaise de lutte contre la corruption a lancé hier à Brazzaville un carnaval intitulé « Mobilisons-nous contre la corruption, sinon elle nous détruira ». L'initiative veut impliquer davantage l'opinion publique à lutter contre la corruption par la dénonciation à travers un numéro vert. En Angola, des mineurs ont extrait un rare diamant rose pur de 170 carats, considéré comme le plus gros à être découvert dans le monde depuis 300 ans. Le diamant a été baptisé la rose de Lulo, du nom de la mine dans le nord-est, d'où il a été extrait. Pour terminer, l'Égypte a signé un protocole d'accord avec une entreprise indienne pour construire une usine d'hydrogène vert dans la zone économique du canal de Suez. La société Indian Renew Power va construire une usine pour produire 20 000 tonnes d'hydrogène vert par an avec des investissements de 8 milliards de dollars.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports, Yakuba Ouedraogo, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Le Ghana se projette déjà vers le Mondial 2022.
Oui, qualifié pour la Coupe du Monde, les Black Stars vont affronter la Suisse le 17 novembre en amical. L'annonce a été faite par la Fédération ghanéenne de football, selon le site Africa Top Sport. Ce match va se disputer à 4 jours du coup d'envoi du Mondial au Qatar, prévu du 21 novembre au 18 décembre 2022. Le Ghana est logé dans le groupe H avec l'Uruguay, le Portugal et la Corée du Sud.
Et sur le marché des transferts, Yakuba, Jules Koundé va signer au FC Barcelone.
Le défenseur central international français du Séville FC va s'engager pour 5 ans avec le club catalan. Selon le quotidien catalan Mundo Deportivo, le Barça et Séville ont trouvé un accord de principe. Le montant de l'opération s'élèverait à environ 50 millions d'euros et 10 millions de bonus, précise le journal. Le quotidien madrilène AS affirme plutôt que Séville et Barcelone ont bouclé le transfert du défenseur mercredi en attendant de l'officialiser. Jules Koundé se remet actuellement d'une intervention chirurgicale après une blessure au pubis. Il avait rejoint Séville en 2019 en provenance de Bordeaux. Avec le club andalou, il a remporté la Ligue Europa lors de la saison 2019-2020.
Et en Allemagne, Yakuba, le Bayern Munich pense plus à Harry Kane qu'à Cristiano Ronaldo.
C'est ce qu'explique le président du club bavarois. Dans un entretien à Bild, Oliver Kahn soutient que recruter la star portugaise ne correspondait pas à la philosophie actuelle du club et a confirmé l'intérêt du champion d'Allemagne pour l'attaquant de Tottenham. L'éventuelle arrivée d'Harry Kane pourrait compenser le départ de la machine à but Robert Lewandowski, parti à Barcelone. Cristiano Ronaldo, 37 ans, qui possède encore un an de contrat chez les Red Devils, n'est pas satisfait de sa situation et a indiqué à sa direction qu'il souhaitait être transféré vers un club qui va jouer la Ligue des Champions. Le club allemand s'est déjà renforcé sur le front de l'attaque en attirant l'ex-star de Liverpool, Sadio Mané.
Enfin, en athlétisme, 4 anciens athlètes rejoignent la commission du CIO.
La légende américaine de l'athlétisme Alison Felix et Massouma Alizada, membres de l'équipe olympique des réfugiés, ont intégré la commission des athlètes du Comité international olympique. Il faut aussi ajouter le Britannique Alistair Brownlee et le Canadien Olyseyi Smith, nommé par le président du CIO, Thomas Barr. La commission des athlètes, présentée comme la voix des sportifs au sein du CIO et du mouvement olympique, est composée de 23 membres au maximum, dont 12 sont élus directement par les sportifs durant les Jeux et jusqu'à 11 nommés.
Et c'est la fin des sports. Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manilakiza, place au dossier du jour. En visite dans la sous-région ouest-africaine, le conseiller en politique étrangère du département d'État américain a terminé son séjour au Sénégal par un face-à-face avec la presse. L'occasion pour évoquer la solidarité américaine suite à la guerre en Ukraine, la place de l'Afrique dans le monde et ses relations avec les États-Unis. Le compte-rendu de notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
La première chose que le conseiller Derek Chollet a évoquée est l'effort américain pour appuyer l'Afrique et le monde face aux difficultés nées de la guerre en Ukraine.
En plus de cela, les États-Unis ont déjà fourni 2,8 milliards de dollars dans le monde en aide alimentaire depuis l'invasion russe de l'Ukraine et près d'un milliard de cette somme pour relever les défis en Afrique subsaharienne. À plus long terme, les États-Unis vont engager plus de 11 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années pour lutter contre les menaces à la sécurité alimentaire dans le monde entier. Et une grande partie de cette somme est réalisée par le biais du programme de l'USAID Nourrir le futur. Et 16 des 20 pays de ce programme sont en Afrique et le Sénégal fait partie des pays cibles.
Le conseiller en politique étrangère du département d'État a également évoqué la place de l'Afrique au sein des instances de décision mondiale. Tout en restant prudent, Derek Chollet a salué les efforts des dirigeants africains dans ce sens.
Nous avons parlé en termes généraux de l'importance de veiller à ce que l'Afrique ait une voix dans les principaux organismes et j'ai entendu le président Macky Sall parler de faire en sorte que l'Afrique soit plus représentée qu'elle ne l'est au G20. Nous n'avons donc pris aucun engagement dans ce sens, mais l'administration Biden est absolument déterminée à faire en sorte que les voix africaines soient entendues dans toutes les affaires internationales.
Le continent africain est un enjeu majeur pour les grandes puissances, mais sa relation avec les États-Unis est avant tout basée sur des questions prioritaires, d'après Derek Chollet.
Nous croyons que nos relations avec les pays d'Afrique sont absolument essentielles à notre intérêt commun parce que les défis ici sont les défis auxquels nous sommes confrontés aux États-Unis, comme les effets du changement climatique, l'insécurité alimentaire, la crise énergétique, la santé mondiale. Ce sont des défis pour l'Afrique, des défis pour les États-Unis et nous devons travailler ensemble pour les résoudre. Indépendamment de ce que d'autres pays peuvent faire avec l'Afrique, les États-Unis ont tout intérêt à renforcer leur partenariat ici sur le continent et c'est la raison pour laquelle le président Biden est déterminé à accueillir le sommet avec des dirigeants africains pour la première fois depuis 2014.
Ce sommet est prévu en décembre prochain. Pendant ce temps, la Chine étend sa fameuse route de soie. Elle construit un peu partout en Afrique des routes, des chemins de fer, des hôpitaux, des stades, des parlements et même le siège de l'Union africaine à Addis Abeba. La Russie, de son côté, essaie d'accroître sa présence militaire et Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, vient juste de terminer une tournée aux allures d'opérations de charme dans plusieurs pays africains. Seydina Abagay à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
La vidéo fait le tour de la toile en Mauritanie. Une dame fait irruption dans l'Assemblée nationale pendant que les députés votent une loi sur l'éducation. Son geste qui vise à réclamer une meilleure place pour les langues nationales dans le système éducatif a relancé la polémique autour des langues dans ce pays multiethnique. À Nouakchott, la correspondance de Mohamed Diop.
Ce projet de loi, c'est de notre avenir qu'il s'agit. Chers députés, sachez que tout le peuple vous écoute. Sachez que tous les jeunes...
La dame qui a fait irruption dans l'hémicycle s'appelle Salima Taba. Elle est membre du mouvement OLAN, Organisation pour l'officialisation des langues nationales. Elle a profité du vote de la loi d'orientation de l'éducation nationale pour réclamer l'officialisation et la généralisation des langues nationales. Le Poular, le Soninké et le Wolof parlée par la communauté noire du pays dans l'enseignement au même titre que la langue arabe. Une revendication dont la députée Kadiata Malick Diallo explique l'origine.
Il y a toujours eu des revendications pour que le système éducatif mauritanien repose sur la langue arabe. Mais les composantes non-arabes voient toujours à travers cela une volonté de donner un avantage à ceux qui sont arabes. Donc, revendiquer généralement que ce soit le français, la langue léguée par le colonisateur, que cette langue-là soit la langue d'enseignement pour assurer l'égalité des chances. Mais quelques années après l'indépendance, les locuteurs des autres langues nationales ont commencé à réclamer à ce que leur langue soit promue, qu'elle soit développée, enseignée et même officialisée comme l'arabe.
La députée rassure tout de même que la nouvelle loi ne va pas reléguer les langues nationales au second plan.
La loi actuelle, pour moi, constitue des avancées par rapport à l'ancienne situation, dans la mesure où les langues n'étaient pas dans le système éducatif. Actuellement, on permet aux enfants, tous dans le fondamental, d'étudier dans leur langue maternelle. C'est cela qui leur procure un avantage par rapport à l'ancienne situation. Et c'est cela qui va leur permettre de réduire d'ailleurs l'écart avec les autres enfants, les enfants arabes. C'est parce qu'ils vont apprendre dans leur langue. C'est ça qui va les aider à facilement acquérir des connaissances et à acquérir de nouvelles langues.
La nouvelle loi d'orientation de l'éducation nationale définit en tout cas les grands axes de l'éducation, tels que la mission de l'école, la carte scolaire, la politique des langues, la gouvernance et le système de l'éducation, entre autres. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott.
Ici aux États-Unis, les femmes noires et les femmes amérindiennes sont plus susceptibles de mourir de complications liées à la grossesse que les femmes blanches, selon les données des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies. La vice-présidente Kamala Harris a fait de la santé maternelle un élément clé de son programme politique national. Le reportage de Laurel Bowman, récit signé Claire Morin-Gibourg.
Alors qu'elle s'apprêtait à devenir une grand-mère, Wanda Irving n'avait pas prévu d'élever encore un enfant. C'est pourtant ce qui est arrivé lorsque sa fille, Shalon Irving, est décédée après avoir donné naissance à sa fille nommée Soleil, maintenant âgée de 5 ans.
Elle était certifiée en éducation sanitaire. Elle a été professeure. Elle n'a pas été entendue, elle n'a pas été respectée, elle n'a pas été crue. Rien de cela.
Wanda raconte que la grossesse s'est pourtant bien passée. Mais après l'accouchement, la situation s'est détériorée. Pour sa mère, la communication avec les médecins n'a pas été facile. L'histoire de la famille Irving est courante aux États-Unis et cela a poussé Wanda à créer une association consacrée à la crise des soins de santé maternelle au sein de la communauté noire. La santé maternelle est un problème dont la vice-présidente américaine Kamala Harris a fait une priorité.
Les États-Unis ont l'un des taux de mortalité maternelle les plus élevés de tous les pays développés.
Rohini Kosoglou est la conseillère en politique intérieure de Madame Harris.
Les femmes noires ont trois fois plus de risques de mourir pendant la grossesse que les femmes blanches. Pour les femmes amérindiennes, il y a deux fois plus de risques de mourir.
Des efforts ont été mis en place par la représentante Lauren Underwood, coprésidente du caucus dédié à la santé maternelle noire, l'un des plus grands caucus du Congrès.
Il y a ce qu'on appelle les facteurs de protection, c'est-à-dire un revenu plus élevé, un niveau d'éducation plus élevé, un travail ou une assurance maladie. Mais pour les Noirs de ce pays, aucun de ces facteurs ne vous protège.
Malgré les efforts mis en place par le gouvernement, pour beaucoup de familles noires, c'est déjà trop tard.
Ce 28 juillet est un jour du dépassement de la Terre où l'humanité vit à crédit après avoir épuisé ce que les écosystèmes peuvent renouveler sur l'année. L'ONG WWF affirme qu'au total, la moitié de la biocapacité de la planète est aujourd'hui utilisée pour nourrir l'humanité avec des modèles très différents les uns des autres. Les détails avec Rosine Munezero.
La cause majeure du dépassement est un système agricole et alimentaire non soutenable. Selon Pierre Canet, directeur du plaidoyer et des campagnes de l'association WWF, les systèmes agricoles et alimentaires sont l'empreinte des hommes sur la planète.
Jour de dépassement, ce 28 juillet, ça signifie que nous avons épuisé ce que les écosystèmes peuvent renouveler sur l'année. C'est-à-dire que nous sommes allés prendre plus de poissons que ce que les océans peuvent nous fournir, ou même encore émettre plus de gaz à effet de serre que ce que les terres peuvent capter, que les forêts peuvent absorber. Nous sommes allés aussi utiliser plus de cultures que ce que les terres peuvent nous apporter en alimentation.
Selon l'ONG américaine Global Footprint Network, qui mesure la consommation de plus de 200 pays et compare ces mesures à la quantité de ressources naturelles de la terre, l'analyse de ces données s'apparente à la tenue d'un budget. Mathis Walker-Nagel, président et fondateur du Global Footprint Network.
La terre a beaucoup de stocks. Nous pouvons donc l'épuiser pendant un certain temps, mais nous ne pouvons pas la surconsommer pour toujours. C'est comme avec l'argent. Nous pouvons dépenser plus d'argent que nous n'en gagnons pendant un certain temps, jusqu'à ce que nous soyons ruinés.
Pierre Canet affirme toutefois qu'il existe des solutions.
Il y a trois solutions. Un, changer de régime alimentaire pour aller vers moins de viande, potentiellement de la meilleure viande, plus de protéines végétales. Deuxième point, stopper la déforestation et nous assurer que l'Union européenne ait un règlement pour éviter que nous ayons dans nos rayons des produits liés à la déforestation. Et troisième point, aller vers d'autres modes et pratiques agricoles pour passer d'une agriculture conventionnelle intensive qui pollue vers des pratiques agroécologiques qui travaillent avec la terre, travaillent avec la nature pour fournir l'alimentation dont nous avons besoin.
Selon l'ONG, une planète en bonne santé est une humanité en bonne santé.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la première visite du président français Emmanuel Macron en Afrique depuis sa réélection. Cette visite au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau va dans le sens du renouvellement de la relation de la France avec le continent africain, selon l'Élysée. Sa tournée intervient dans un contexte de remise en cause des relations entre la France et le continent par une bonne partie de l'opinion publique africaine. Le second mandat de Macron permettra-t-il de relancer les relations entre Paris et ses partenaires africains? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Cette édition, merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à Michel Joseph de la production pour la mise en onde et la réalisation de cette édition. Merci également à toute la rédaction. Au micro, Eric Mandakiza, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, allez sur votre site internet voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.